Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 10 décembre 2021. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 3, épisode 97. Et je suis Laetitia, toujours accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de l'irrévocable Laetitia. Presque 100 épisodes, on va aller jusqu'à 1000. Tu vas faire comme certains présidents, Laetitia, tu
exactement,
vas rester ici en place
indéboulonnable.
Pendant des années, il n'y a pas de démocratie qui tienne. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé authentique sur l'actualité du commerce en ligne pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Le Café d'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission 97, des news cashback, metaverse et live shopping. Du lourd côté breaking news, chez Amazon on déploie les forces spéciales. On passera le mic à David Alexandre de chez SaaS Institute. Et enfin, avec lui, on parlera de pénurie et de retail.
Et comme à chaque fin d'émission, on jouera avec certains jeux autour de l'actualité de la semaine. Cette semaine, c'est le retour du Kikadi et c'est Laetitia qui sera la maître du jeu. Laetitia.
Adrien.
Prêt.
Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne faut pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
Orchestra lance son programme de cashback.
Amazon se voit infliger une amende record en Italie. Je ne sais plus comment on dit ce chiffre. Plus d'un milliard. Ouais. 1,128 milliard de dollars pour abus de positionnement dominante. En gros, Amazon sanctionnait les vendeurs qui n'utilisaient pas les services Amazon de logistique.
Lydia devient la 22e licorne française. L'application spécialiste des services financiers vient de lever 100 millions de dollars.
Miracle et Cast TV, souvenez-vous, on avait reçu le fondateur de Cast TV. Eh bien, la solution de live shopping est désormais disponible pour toutes les marketplaces Miracle.
Shopopopop, spécialiste de la livraison collaborative, lève 20 millions d'euros.
On a des problèmes avec les chiffres aujourd'hui. Le groupe Inditex débarque dans le Metaverse. Zara présentera sa dernière collection sur l'app sud-coréenne Zepeto.
Rubrique Quoi de neuf chez nous, c'est la rubrique où on parle de nous, ce qui s'est passé ces derniers jours. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé chez toi ces derniers jours?
Il ne s'est rien passé. Non, blague à part, il y a deux semaines, je vous racontais l'histoire de Carrefour qui avait décidé dans un certain nombre de ses magasins de ne plus diffuser de catalogue papier. Et je vous disais que j'étais assez sceptique parce que j'avais l'impression de toujours recevoir des choses. Là, j'étais attentive et je ne reçois plus rien de Carrefour. J'ai demandé à ma grand-mère, elle ne reçoit plus rien de Carrefour. Et j'ai demandé à ma mère, elle ne reçoit plus rien de Carrefour. Donc dans notre petite zone là de 20 km, je crois que les deux ou trois magasins Carrefour qui nous entourent, eh bien, ont décidé de ne plus nous fournir de catalogue Carrefour.
Donc c'est une bonne nouvelle, c'est bien.
Bah ouais,
ça
c'est
te manque.
Non, je suis contente. Mais en plus j'étais hyper sceptique, donc bravo. Hein.
Et à côté de ça, tu reçois d'autres catalogues?
Ah oui, bah oui, je continue à recevoir les concurrents.
Ah ok, donc il faut qu'ils en prennent note. Écoute, de mon côté, on est en train de finaliser les préparatifs. Je fais comme si c'était une grosse soirée, mais de notre lunch, ça sera le mercredi 16, c'est ça?
C'est ça, mercredi 16, chez Lamicoc.
Exactement. Donc, si vous écoutez cet épisode, il est encore temps de venir nous rejoindre. L'idée, c'est qu'on soit quelques-uns, qu'on partage entre nous. On a déjà quelques inscrits, donc ça serait super, si vous êtes à Paris, de pouvoir partager un repas avec nous. Et donc, on vous fera un petit retour sur qui était là et comment ça s'est passé. On est ravis de pouvoir rencontrer la communauté.
Vous êtes les bienvenus.
Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Laetitia, tu avais quoi pour nous?
Bah, tu sais, c'est la fin d'année, donc c'est la période des bilans, des
remises
en question.
Pas de classement, s'il te plaît, pas de classement.
Non, c'est pas du tout un classement, okay. Absolument pas un classement. En fait, je suis tombée sur un rapport qui nous propose les 20 tendances.
C'est un classement alors?
Non, les 20 tendances de l'influence marketing pour 2022.
D'accord.
Je regarde, je me dis, bon, je suis sûre que je vais trouver des choses hyper palpitantes. Et en fait, je me rends compte que ce sont des choses qu'on décrypte au micro depuis le début de cette émission, depuis 2019. Et donc, j'en ai sélectionné quelques-unes.
Ok.
La première qui vient, c'est live shopping. Et là, j'ai envie de dire, ah bon, sérieusement, c'est une tendance pour 2022?
C'était pour 2022, c'est ça?
Ouais, c'est pour
donc
2022.
Ça va continuer. Oui, après,
et nous, ouais, on en parle depuis le début.
Ouais.
Enfin, j'en parle depuis le début. Et dedans, dans ce rapport, on explique que c'est une grosse tendance, qu'il faut investir. Bon, tout ce qu'on dit toujours au micro, et on cite bien évidemment les gros acteurs du live shopping en France qui sont number one, Carrefour, Fnac Darty, Cdiscount, Sephora, Camaïeu, Uniqlo, La Redoute. Ça ne parle pas de Cast TV, mais en tout cas, moi, c'est le seul acteur que j'ai pu repérer sur du live shopping et qui fonctionne. Tout ça pour dire que souvent, tu dis que nos prédictions sont fausses et qu'on se trompe. Pour le coup, on ne s'est pas trop trompé hein, sur le live shopping. La deuxième tendance, c'est les outils social commerce. Là encore, je suis hyper stupéfaite parce que ben, nous rabâche encore les outils du type Insta et Facebook boutique. Pareil, j'ai l'impression qu'on en parle depuis des années, depuis toujours en fait. Et je me demande comment ces choses-là ne sont pas suffisamment utilisées, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, pour que ça reste encore des tendances et qu'on les balance comme ça un peu dans les cahiers de tendances en disant « mais allez-y, 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 c'est l'avenir du social commerce ». En tout cas, nous, on en parle vraiment depuis trop longtemps. En troisième, là, bon, on n'en parle pas parce que j'ai l'impression que moi, je ne l'avais pas trop vu venir. Bah, ce sont les NFT. Hein. Et ce que j'aime bien dans le rapport, c'est qu'il nous explique un peu les opportunités qu'il y a, notamment pour les marques de tout secteur. Moi, là où j'ai une interrogation, c'est OK, il y a une très grosse opportunité, tout le monde se rue dessus. Ça coûte quand même une certaine somme. Ma question, c'est quelle stratégie et surtout, avec qui est-ce que les marques peuvent s'allier pour être performantes? Et surtout sur quelle plateforme. Et là où moi j'émets un avis très fort, c'est que l'avenir des NFT, je pense qu'il se fera uniquement en partenariat avec des plateformes de social media du type TikTok, Twitch. D'ailleurs, TikTok a été l'une des premières plateformes à lancer, à pousser l'utilisation des NFT via un truc qui s'appelait TikTok Own the Moment. Et en gros, c'était la possibilité de se plonger dans les NFT, de miser sur des NFT. Et j'ai pas vu d'autres plateformes pousser d'autres initiatives de ce genre-là. Donc du coup, là aussi où j'ai une grosse interrogation, c'est que j'ai l'impression que ça s'adresse quand même à des grosses marques, les NFT, des marques qui ont de l'argent, celles qui peuvent réfléchir, celles qui peuvent investir. Et je me demande quelle est la place des marques un peu plus moyennes, les DNVB. Là, on avait l'habitude de les voir hyper en avant, hyper précurseurs, oui, précurseurs, ça se dit, hyper agiles. Là, je ne les vois pas trop. Donc, je me dis, les NFT, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Gros point d'interrogation. Tendance, oui, mais pour qui à voir.
Il y avait d'autres choses intéressantes?
Ouais. Alors, deux autres choses, je crois que tu vas en parler un petit peu plus tard dans l'émission, c'est le Metaverse, je ne sais jamais comment on dit. Et là, dans ce rapport, on parle de Snapchat, et en disant que Snapchat, c'est peut-être un acteur qui a quelque chose à faire dans les Metaverse. Alors, on parle toujours de Meta et de Facebook. Bah ouais, effectivement, en fait, si on réfléchit bien, Snapchat, depuis très longtemps, ils sont dans cet univers de réalité virtuelle augmentée. Ils proposent tout le temps des grosses opérations de communication avec plein de marques autour de la réalité augmentée. Donc, je me dis que ça pourrait être un bon challenger pour Facebook. Et enfin, juste pour vraiment rigoler, la cinquième tendance parmi les 20 que j'ai sélectionnées, c'est le podcast. Et là encore, je me dis qu'on est précurseur, qu'on est là depuis 2019. En gros, les marques, allez-y, misez sur les podcasts, vos podcasts de marque, les podcasts aussi pour faire toutes vos RP. Et donc là, en gros, sur les 5 que je viens de citer, il y en a quand même 3 où je me dis, bon, on n'était pas à côté de la plaque quand même.
C'est pas devenu déjà has-been le podcast?
Si, ouais, c'est pour ça qu'on n'ira peut-être pas à la millième.
C'était la mode il y a encore quelques années. Je pense que l'année dernière, c'était le gros truc il y a 2 ans. L'année dernière et il y a 2 ans, je pense que c'était le gros truc. Je ne sais pas s'il y a énormément de marques qui le font. En tout cas,
les podcasts de marque, pas trop.
Mais je ne sais pas s'il y a un ROI fort.
Ouais. Voilà, exactement.
Le 5-6 numéros et puis après, elle laisse le truc.
À démontrer. Voilà, je vous mets dans le commentaire le lien de ce rapport qui est fait par l'agence Influence for You.
Quand est-ce que tu nous fais ton cahier des tendances?
Bientôt, c'est peut-être un cadeau, un content extra que je vais vous proposer, un contenu extra moyennant 10 euros, un e-book.
J'étais sûre qu'elle allait le faire payer.
Et c'est un abonnement
avec un formulaire.
Tous les mois avec un formulaire. Et toi, Adrien?
Cette semaine, on a vu passer quelque chose qui ressemblait à une rumeur et en fait, ça s'est confirmé. C'est un leak d'une information qui était sortie de chez Facebook, de chez Meta. Je vais continuer à appeler ça Facebook parce que c'est l'habitude. Et en fait, on retrouve dans ce mémo une note de service qui a été envoyée aux employés de Facebook et qui explique un peu la nouvelle stratégie ou en tout cas le nouveau focus qu'ils veulent faire sur le e-commerce. On retrouve quoi? Il y a dans ce mémo, il y a quelques phrases qui sont assez intéressantes. Un focus, par exemple, c'est que les applications Facebook sont les destinations principales pour le commerce. Donc, on retrouve Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Donc, une volonté forte d'ancrer ces applications comme point d'entrée pour le commerce. C'est notre plus grande priorité et nos plus gros investissements dans le secteur. Donc là, ça fait vraiment une grosse, ça sonne la grosse annonce. Alors cela dit, pour le moment, c'est juste interne et ça a pas vocation, ça avait pas vocation à fuiter. Et ce qui était amusant, c'est qu'il liste Shopify. Il le considère comme un... Alors j'ai trouvé la traduction en France, enfin j'ai créé la traduction française, c'est un ennemi. C'est parce que les Anglais,
ils adorent. Ennemi,
voilà, ennemi, ouais. C'est ça, c'est friend me ou free me. Ouais, je sais plus comment ils l'ont dit en anglais.
Parce qu'ils sont en partenariat de mémoire.
Ennemi ami. Où ils expliquent que Shopify est longueur d'avance dans le domaine du commerce et qu'il faut commencer à réfléchir à, tu vois, se sortir de cette dépendance et puis faire des choses qui permettent de se positionner sur l'e-commerce. Et tout ça, c'est en parallèle de pas mal de changements qui ont eu lieu là ces dernières semaines sur iOS qui permettent d'avoir moins de données, qui limitent le nombre d'informations qui sont partagées pour Facebook. Et donc, du coup, on peut imaginer que leur modèle de pub, à terme, ils se posent des questions où ils sont moins rentables. Et donc, ils essaient de se positionner sur l'e-commerce. Alors, Laetitia, le monde, il se divise en deux catégories. Il y a ceux qui croient en Meta et les autres. Moi, je suis les autres. Alors, blague à part.
Tu ne crois pas en Meta, c'est ça ?
Blague à part, on va dire, sur cette. Quand ça a été sorti, on va dire, il y a deux. T'as deux manières de voir les choses. La première, c'est de dire que Meta ne comprend rien. Ou alors, on ne comprend rien à ce qu'ils font. Ils ne parlent pas d'Amazon, ils parlent de Shopify. Alors qu'on pourrait se dire que leur principale concurrence, c'est Amazon, que ce soit sur la pub ou sur le commerce. Ils devraient se focaliser sur la pub et sur le contenu, ce qui est leur force. Même un gros comme Google, avec tout l'argent du monde, ils ont essayé ces dernières années de se positionner sur l'e-commerce, ils n'ont pas réussi. Alors pourquoi Facebook réussirait ? Donc ça, c'est le premier qui est un peu plus sceptique, le premier groupe. Et le deuxième, bah, tu as Meta qui arrive avec son Metacommerce. Ils l'ont même cité dans leur mémo. Ils ont une force de frappe gigantesque. Ils vont réussir à prendre des parts de marché et vont transformer leur app en super app. Ils vont faire que ça fonctionne. La réalité, c'est que parmi les analyses, j'ai trouvé personne qui est entré dans cette deuxième catégorie. J'ai l'impression que tout le monde est plutôt sceptique quant aux capacités à Facebook à se transformer et à être un acteur majeur sur l'e-commerce, notamment quand tu décryptes un petit peu ce mémo. Donc moi, je reste également sceptique. Je pense qu'effectivement, il y a plein d'acteurs qui ont essayé de se positionner. Ce n'est pas juste une histoire de lancer des fonctionnalités, mais c'est une histoire de culture, de perception sur le marché, de ta manière à pouvoir délivrer correctement des services. Et je ne suis pas convaincu aujourd'hui avec les éléments que je vois de Facebook qui vont être capables de transformer et de se positionner comme un acteur majeur de l'e-commerce. Laetitia, qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses qu'ils vont réussir à faire des choses intéressantes et que c'est un mémo qui montre une nouvelle stratégie pour Meta ?
Non, moi, je suis hyper sceptique sur la véracité de ce mémo déjà. Quand j'ai vu la news, j'étais plutôt là en train de me dire, enfin, tous les jours, il y a des leaks de Facebook. Et là, je me disais, c'est pas possible, c'est tellement énorme que ça peut pas être vrai. Ça, c'est ma première réaction. Et ensuite, moi, je suis plutôt du camp. Je pense que Meta va pouvoir un peu aller sur du métacommerce, comme ils le disent, sur du social commerce, comme nous, on le dit depuis plusieurs semaines et plusieurs mois au micro. Et je pense qu'on sous-estime la force de frappe de Facebook, parce que Facebook, souvent, réussit sur d'autres régions du monde que celle que le monde occidental. Et on sous-estime ses capacités sur notamment, je pense, à l'Inde, voilà, ou encore l'Afrique. Et c'est peut-être par là que ça va se déclencher et que ça va percer. Donc voilà, moi je me dis qu'il faut regarder d'un autre spectre.
Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon. Laetitia, qu'est-ce que tu avais noté cette semaine ?
Moi, j'ai noté une news que... Enfin, je ne m'intéresse pas particulièrement à la logistique, mais là, ça m'a fait doucement rigoler. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un peu le bazar et le bordel, voire le chaos dans les ports et dans tout ce qui est logistique et fret. Et Amazon, tout simplement, s'est dit « Oh, allez, si on allait contourner les jours et les semaines d'attente d'arrivée dans les ports, en contournant par exemple les ports d'arrivée, en créant ses propres cargos, ses propres paquebots et aussi ses propres containers. » Donc cette news, elle est finalement, elle n'est pas importante en elle-même, mais elle révèle bien la stratégie d'Amazon. Donc en gros, si je résume, en 2020, Amazon a dépensé 61 millions de dollars pour l'expédition. C'est énorme.
61 millions ou milliards ?
Pardon, ouais, milliards. Je pense, ouais. On a des problèmes avec les chiffres aujourd'hui. Milliards. Un autre chiffre à noter, c'est que Amazon expédie 72% de ses propres colis contre moins de 47% en 2019. Donc, grosse explosion dans sa propre chaîne d'approvisionnement. Sauf qu'on a un contexte mondial aujourd'hui, en 2021, d'approvisionnement qui est saturé, des ports qui sont engorgés et des paquebots, comme je le disais, qui sont coincés jusqu'à plusieurs semaines. Amazon déteste dépendre des autres et du coup, crée ses propres services, d'abord pour lui et puis peut-être après pour les autres. Et donc, le géant s'est dit, tiens, je vais affréter directement mes propres cargos, donc des cargos privés et des vols long courrier. Et aussi, je vais aller plus loin et je vais fabriquer mes propres conteneurs. Pour les conteneurs qui sont en Chine. En gros, Amazon fabrique des conteneurs en Chine pour pouvoir parce que les prix des conteneurs ont vraiment explosé. Du coup, bah, petit moyen de contourner et d'aller plus vite. Donc, pour résumer, Amazon fait arriver ses paquebots, par exemple, dans un port plus petit. Si on prend, par exemple, le port de Washington, pas de Washington, mais de Los Angeles, vous avez un petit peu plus loin le port de Washington. Eh bien, Amazon fait livrer à Washington. Depuis Washington, il y a des camions qui attendent. Et puis après, bah, voilà, c'est contourné et on ne reste pas 3 semaines bloqué. Et ensuite, bah, je vous parlais de la Chine. Amazon qui décide de fabriquer lui-même ses propres conteneurs. Et c'est un élément assez indispensable pour les transports de marchandises parce que je vous le disais, les prix des conteneurs ont considérablement augmenté. Pourquoi ça me fait doucement rire? Parce que je me dis que c'est encore un moyen de contourner. C'est aussi un moyen très filou. Et après, je me dis, bah, Amazon, une fois qu'Amazon aura fait ses propres preuves, vont proposer ses services à d'autres. Et puis après, Amazon construira ses propres ports. Et puis voilà, ça fait un peu penser à du
Bolloré. Propre bateau aussi, capitaine de bateau, c'est ça?
Ils ont tout. Et toi, Adrien, qu'est-ce que tu as noté du côté de chez Amazon?
On savait qu'Amazon perdait de l'argent sur son programme Prime. On ne savait pas à quel point. Et donc, il y a un superbe article qu'on vous met en note de l'émission qui explicite un petit peu plus en détail ce qu'ils perdent. Et on se rend compte qu'ils, d'après les estimations, ils perdraient 15 milliards de dollars par an. Ce qu'on pourrait dire, bah, c'est pas très grave, ils perdent de l'argent sur leur programme. Le problème, c'est qu'ils perdent de l'argent au détriment de la concurrence. Et du coup, ces pertes, elles sont délibérées. Et elles étouffent la concurrence. Et c'est en ça que ça peut être un petit peu plus compliqué, parce que ça empêche n'importe quel concurrent d'émerger. D'un côté, tu as des pertes massives qui sont contrôlées, qui empêchent d'autres d'émerger. Et de l'autre, tu as une pression de plus en plus forte sur les sellers de la marketplace. Alors, l'article est assez complet et je vous invite à le lire. Je m'étais amusé à noter ce que l'article reprend, ce qu'on a pour Amazon Prime. Donc, c'est 50€ par an. Et quelques services qu'on retrouve, donc la livraison gratuite et prioritaire, ça on le connaît, c'est classique. Le stockage gratuit et limité des photos sur Amazon Photo. Le service de streaming vidéo Prime Video qu'on utilise sans limitation. Amazon Music avec 2 millions de titres. Alors c'est pas la version pro parce que je crois que tu peux payer pour avoir vraiment tout le catalogue, mais t'as déjà plein de titres. Des centaines d'e-books qui sont en accès. Prime Gaming, ça je suis moins au courant. Et puis il y a aussi des avantages sur Twitch. Donc t'as énormément d'avantages pour 50€ et c'est l'idée des à chaque fois ils rajoutent des nouveaux services et ça fait de plus en plus, enfin ça rend de plus en plus difficile à d'autres commerçants d'émerger. Donc, je vous invite à retrouver l'article.
Retour vers le futur. C'est la rubrique où on fait un bond d'un an en arrière pour faire un suivi sur les news marquantes de l'époque. On confronte nos prédictions et nos analyses. Pour cet épisode, on retourne avec Balaram Dinar de Syndigo.
Oui, Lucia, je te propose de faire un bond d'un an en arrière. Ma coupe de cheveux, elle a fait 15 ans en arrière. Donc là, on va juste regarder les news. Alors, c'est l'épisode du 9 décembre 2020 pour l'épisode 63. Tu l'as dit avec Balaram Dinar de Syndigo. On parlait de pas mal de choses. Ikea qui renonce à son catalogue papier. T'as Cdiscount qui lance sa plateforme d'occasion qui existe toujours. Je crois que c'est occasion.cdiscount.com. T'avais Amazon qui lançait sa formation en ligne dédiée aux commerçants. Et tu te souviens, je l'avais testé. Il y avait pas mal de rubriques qui manquaient. Donc, c'est accélérateurdunumérique.fr avec des tirés entre les mots. Ils ont continué à le mettre à jour et bah franchement j'y suis retourné ce matin et toutes les rubriques sont bien remplies. Ils font un paquet de webinars, ils appellent pas ça des webinars, mais il y a plein de contenu et continuent à l'alimenter, donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs c'est du contenu qui est pas alimenté nécessairement par Amazon, c'est des ressources tierces.
Ah, il y a d'autres contributeurs.
Donc ça c'est plutôt, ouais voilà, ça a des solutions tierces du marché, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Cédrico qui pousse un coup de gueule contre Wish l'année dernière, qui était épinglé par la répression des fraudes.
Déjà.
Et tu te souviens la quote de, enfin ce que Cédrico disait, Wish s'était déjà distingué pendant le premier confinement en vendant des masques ne respectant pas les normes. Les Français qui utilisent l'application pour y trouver du low cost doivent savoir qu'ils y trouveront surtout des arnaques. Un an plus tard, DGCCRF qui leur tape dessus et qui le déférencement effectivement sur les moteurs de recherche. Donc voilà, c'est un amusant de voir qu'il y avait pas mal de choses qui avaient déjà été entamées l'année dernière.
Bon, on disait pas trop de bêtises alors, ça va. Passe le mic. Cette semaine, nous recevons David Alexandre Laurie. On va parler pénurie, pandémie, retail. Et aujourd'hui, nous recevons David de chez SAS. Bonjour David.
Bonjour Laetitia.
Bonjour David.
Bonjour Adrien.
Bienvenue David. Eh bien, écoute, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va discuter de flexibilité du processus décisionnel dans un contexte de pénurie mondiale. Ça fait très très peur quand on dit comme ça. Je vais peut-être le reformuler. Aujourd'hui, on est dans un contexte de pénurie mondiale. Il manque beaucoup de matières premières. Et surtout, on observe que dans les magasins ou même sur des sites e-commerce, eh bien, il manque certains produits. Comment est-ce que ça se passe derrière, côté retailer, quand on doit faire face à ce genre de pénurie?
Et du coup, David, avant même d'entrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un petit peu qui t'es, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Donc, déjà, merci de m'avoir invité. Je suis en fait consultant industrie retail et CPG pour l'IMIA chez SAS, donc depuis 4 ans. Et avant, j'étais côté retail en Allemagne, principalement pour Metro, Rivé, mais aussi Aldi et Lidl. Et mon rôle, en fait, est actuellement de faire le lien entre les métiers, le monde d'où je viens, et la technologie, le monde dans lequel j'évolue. Et SAS, c'est un éditeur de plateformes logicielles et c'est le leader dans l'analytique.
Ce qui est intéressant dans ton parcours, David, c'est que tu as passé des années à accompagner des retailers et pour le coup, pas des petits. Donc, tu as vu des problématiques qui sont assez complexes de transformation. Et aujourd'hui, avec Laetitia, ce qu'on voulait discuter, c'est ce que Laetitia a expliqué en introduction, c'est ce qui se passe autour de la pénurie. On en entend beaucoup parler finalement dans les médias généralistes ou semi-généralistes, on va dire, mais peu dans le contexte e-commerce, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà, avant même qu'on parle du sujet, nous expliquer de quoi il s'agit dans cette pénurie?
Disons que si on parle de pénurie, il faut bien comprendre que avec la Covid, avec le confinement, il y a eu des problèmes de transport. On parle bien souvent en fait de ce qui s'est passé en Asie. Les ports se sont arrêtés. Il y a une explosion en fait du prix des conteneurs. Donc le conteneur est passé de 2000 à 17 000 euros. Très simplement. Et il y a eu des sites industriels en grève. Donc tout ça, en fait, ça a créé beaucoup de dépendance sur la disponibilité des produits.
David, moi j'ai juste une question opérationnelle ou logistique, mais quand on est retailer et qu'on passe un bon de commande, par exemple pour Noël, à quel moment est-ce que le retailer doit passer sa commande pour être sûr d'avoir tout en septembre-octobre?
Alors, ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, le planning démarre bien longtemps à l'avance, en fait. Généralement, les plannings se font 1 an à l'avance. Par contre, le schéma logistique, lui, il se fait quelques mois à l'avance. Et ce qui s'est passé, en fait, cette année, c'est que certains acteurs ont anticipé. Donc, en septembre, ils se sont fait déjà livrer, en fait, les produits pour Noël. Et d'autres, en fait, normalement, ces livraisons sont faites en octobre, novembre. Novembre, vraiment au dernier moment, mais généralement, c'est en octobre, les produits sont déjà disponibles.
Donc, l'enjeu pour les marques, quel est-il du coup?
L'enjeu, en fait, pour les marques, c'est vraiment d'avoir ce produit à disposition. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande derrière. Donc, les plannings permettent en fait d'anticiper cette demande. Mais le problème, c'est que comme les chaînes de distribution et de production se sont arrêtées, les produits en fait ont pris du retard. Donc aujourd'hui, pour faire face à cette demande-là, il va falloir en fait s'adapter, puisque le produit ne sera pas forcément en volume disponible.
Ce retard, David, il est déjà acté, c'est certain, ou on peut encore l'anticiper pour les marques?
Aujourd'hui, je dirais c'est trop tard. Là, on est début décembre. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer de voir quelles sont les alternatives. Ceux qui ont anticipé, ils ont fait du surstock. Donc, est-ce que c'est la solution? Il va y avoir en fait des marges et des coûts qui vont être conséquents. D'autres, ils vont devoir en fait baser leurs offres sur des produits de substitution. Mais je dirais que c'est une phase où il faut apprendre pour l'année prochaine, il faut anticiper, il faut changer On est dans une transformation pas uniquement digitale, c'est une transformation aussi sur les processus opérationnels.
Quand on parle de, justement de retard ou de pénurie, c'est simplement pour la période de fête parce qu'il y a un pic ou ça continue en fait le reste de l'année parce qu'en fait le problème il est pas résolu.
Alors moi je dirais le taux de disponibilité des produits, ça a toujours été un problème pour les retailers, pour les CPG. Là en fait on a une pénurie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu en fait des problèmes de production. Donc c'est en fait un jeu de domino, hein, tout tombe les uns derrière les autres. Donc il y a des conséquences et ça fait en fait une sorte d'onde et on va rentrer actuellement dans cette onde de choc. Mais on va dire le taux de service et le taux de disponibilité, ça a toujours été en fait un problème pour les retailers. Le fait est que on voit très rapidement dans les rayons des produits qui sont pas disponibles. On l'a vu de tout temps.
David, tu viens d'employer le mot rayon. Du coup, bah, moi, je pense magasin. Mais est-ce que c'est la même chose aussi en ligne? Est-ce qu'on observe la même, bah, déjà la même crainte côté retailer online et les mêmes craintes et les mêmes attentes aussi chez l'acheteur en ligne?
Oui, tout à fait. En fait, on pense beaucoup offline, magasin, mais cette disponibilité des produits, elle est valable pour les deux, en fait. Et c'est quelque chose en fait qui va se noter parce qu'aujourd'hui de plus en plus les retailers se posent la question qu'est-ce que je mets dans mon magasin, qu'est-ce que je mets sur mon offre online et de plus en plus en fait ces offres-là sont qu'une seule et même offre. Pourquoi ? Parce que les gens sont complètement omnichannel, donc ils vont aller dans le magasin pour vérifier un produit, ils vont l'acheter online, se le faire livrer chez eux. Donc on est vraiment dans l'omnicanalité. Donc on ne peut plus dissocier en fait l'offre offline et online. Donc ça impacte les deux.
Si une marque elle a un certain nombre de produits, moi de manière bête et méchante, je me dis bah une fois qu'elle sait qu'elle a un stock, elle a 100 produits, une fois que ça arrive à zéro, bah elle peut plus le vendre. Il y a rien à faire en fait, il y a rien à optimiser. Parce qu'en fait j'ai un certain stock et je cherche à le vendre. En quoi il faut quand même se poser des questions. Il y a quand même des choses à faire.
Bah disons que en fait il y a toujours la question de la demande. Tous les retailers sont customer-centric. Donc, l'objectif, c'est de fournir le produit pour lequel le consommateur vient sur l'enseigne, vient dans la marque. Et donc, il faut être sûr que on réponde à cette demande. Donc, on a des stocks, effectivement, on a des seuils de sécurité. Et quand on descend en dessous de ces seuils de sécurité, on recommande des produits. Donc, normalement, on a toujours des produits à disposition. Le fait de pas avoir un produit à disposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur peut aller soit sur une autre enseigne, soit sur un autre canal, soit complètement abandonner son panier d'achat et changer complètement de produit.
Et il y a quand même des choses à faire en sachant qu'on va plus avoir ce produit. Il y a quand même des choses à faire côté marque. Le produit, de toute façon, il ne pourra pas l'avoir, mais elle peut peut-être communiquer différemment ou construire son offre différemment, c'est
oui,
ça?
Oui, alors c'est là où en fait on parle. Pour une marque, ça peut être aussi des produits de substitution. Qu'est-ce qui correspond aux besoins du client? Donc, ce consommateur-là, quand il vient acheter quelque chose, il a en fait un schéma décisionnel dans son parcours d'achat. Donc, il vient acheter quelque chose qui correspond à ce besoin. Après, il n'y a pas qu'un seul produit qui répond à ce besoin. Il peut y avoir différents produits. Donc, si on parle de la marque, ça peut être des produits similaires dans la marque. Si c'est une enseigne, un retailer, lui, généralement, il a en fait une offre qui répond à ce besoin et il y en a beaucoup dans des produits. Il devrait y en avoir beaucoup. En tout cas, il devrait s'en assurer.
Tu as des exemples, David, pour illustrer ça, justement, quel type de produits, de substitution pour avoir ou des choses qu'on peut voir en ligne ou en magasin?
Oui, en fait, si on prend par exemple l'industrie du jouet, puisque c'est celui dans lequel on est, si on prend les produits électroniques, on va dire peut-être les robots. Donc, c'est quelque chose qui répond en fait à un besoin. Donc, le schéma décisionnel arrive sur mon enfant cherche un outil avec lequel il va pouvoir interagir, robotisé, qui peut se déplacer. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça? Donc, on va essayer de capturer derrière tous les produits qui vont être robotisés, qui peuvent bouger, qui peuvent avoir des interactions avec un enfant. Et généralement, on sélectionne aussi la catégorie, l'âge de l'enfant. Est-ce que c'est plus 0 à 6 ans, 6 à 10 ou au-delà de 10? Donc, on arrive à trouver des produits qui ressemblent le plus à ce robot qui peuvent répondre à ce besoin.
David, j'imagine que les équipes face à ces consommateurs qui sont toujours très exigeants et qui veulent tout de suite maintenant, et j'en fais partie, les équipes, elles doivent s'adapter, elles doivent même pas s'adapter, en fait elles doivent anticiper. Et là, tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment de l'anticipation. Comment est-ce que ça se prépare et comment est-ce que ça se vit en interne? On n'attend pas que on nous ait dit c'est bloqué en Chine et puis c'est bon, c'est fini, il n'y a rien du tout, voilà, enfin.
Et peut-être même depuis un an, en fait, ils le savent. Parce que pour répondre à ce que tu disais, ça s'anticipe.
Oui, effectivement, quand on construit en fait une offre, il faut vraiment s'assurer qu'on a bien compris sa catégorie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des catégories managers au niveau des retailers et au niveau des CPG aussi, qui vont construire en fait leur offre. Et donc, ils vont pouvoir justement construire ces arbres décisionnels, ces besoins, combien de produits je mets dans ce besoin-là, en espérant que, comme il y a beaucoup de demandes sur ce besoin, j'ai suffisamment de produits. Si j'ai des produits qui sont en rupture de stock, j'ai des produits de substitution qui sont juste à côté. Donc, tout ça, effectivement, ça s'anticipe, ça se prépare, et c'est pour ça qu'on parle de « demand planning », pour être sûr que dans les commandes que je passe à mes fournisseurs, j'ai bien en fait respecté les priorités, l'importance de ces produits et aussi ces calendaires. Hein, je veux dire, dans l'année, en fait, le besoin, il évolue, il change. Et on n'a pas les mêmes besoins en janvier qu'en juillet ou en août.
Toi, aujourd'hui, tu échanges avec des marques, des retailers sur le marché. Ils sont sereins pour cette fin d'année, ou alors c'est pire que ce qu'ils anticipaient. Ils avaient anticipé, mais pas peut-être pas où c'est un scénario catastrophe. S'en est où là les attentes des retailers et des marques?
Disons que on voit différentes réactions. Si on prend, ça dépend en fait de l'industrie. Si on prend par exemple le monde de l'alimentaire. On voit que là, il y a les ruptures en PGC, en fait, montrent un grand chiffre derrière de pertes qui sont liées à ces ruptures. On parle de 4,7 milliards. Donc, pour eux, c'est relativement assez important. Maintenant, quand on prend Nike, ils ont pris un retard de 10 semaines sur la production. Donc, pour eux, c'est un peu problématique. Est-ce qu'ils vont avoir les offres pour Noël, puisqu'on sait que Noël, c'est une période où il va y avoir plus de ventes. Donc, pour eux, ça va être un peu problématique. Chaque industrie, en fait, a joué avec ça pour justement anticiper. Le domaine du jouet, au départ, ils avaient beaucoup parlé du jouet et des ruptures de stock. Aujourd'hui, ils sont un peu plus sereins. Ils disent, voilà, on va pouvoir pallier à ça. Finalement, la rupture de stock, elle ne va pas impacter autant qu'on s'y attendait.
Ce que je te propose, c'est qu'on passe aux solutions. Alors, on a vu qu'il y a une grosse pénurie. On peut un petit peu l'anticiper, ou en tout cas, on peut être au courant qu'elle va arriver. On comprend que c'est un enjeu pour le consommateur parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a les process en interne, il y a l'organisation, le planning. C'est quoi les différentes solutions? Quelles sont les cartes qui sont en main des retailers et des marques?
On va dire que la donnée, la data, je veux dire, tout le monde en parle, c'est vraiment le fuel qui vient alimenter justement ces processus décisionnels, parce que tout revient à prendre la bonne décision et à anticiper, comme on l'a dit, poser les bons plannings. Mais il va falloir aussi en fait réagir, c'est-à-dire que corriger en fait, on va dire des livraisons qui sont en retard, c'est très important. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est faire des simulations de scénarios. Donc, on va utiliser toute cette data, on va créer des modèles derrière, et ces modèles, avec l'intelligence artificielle, vont venir nous aider à prendre ces décisions.
Avant que tu poursuives, moi je me dis, la data c'est très bien quand c'est quelque chose de linéaire, parce qu'en fait tu as l'historisation et tu vois où est-ce que ça peut aller et tu peux construire tes scénarios. On est dans un monde qui s'est complètement transformé, personne ne sait, je sais pas où je serai dans 3 jours, mais alors dans 3 semaines ou dans 3 mois, le marché il en sait encore moins. Et regarde, là on a encore annoncé il y a quelques jours, je sais pas si ça s'appelle un reconfinement ou quoi que ce soit, mais il y a des règles qui changent sans arrêt. Dans quelle mesure la data elle a encore un poids pour prendre des décisions? Et deuxième corps à cette question, comment est-ce que tu peux anticiper des scénarios? En fait, personne n'en a, ne sait. Ces scénarios, ils sont très difficiles à envisager, à penser pour les mettre dans les systèmes, non?
Oui, tout à fait. Si on reprend, si on fait juste un comeback 10 ans en arrière, tout se faisait avec Excel. Hein. Je veux dire, on essayait de faire des simulations et tout ça, on travaillait avec Excel et puis on changeait manuellement, on va dire, les données.
Tu sais qu'il y en a encore plein qui sont sur Excel.
Oui,
enfin, moi, j'échange tous les jours. C'est des Excel, des Google Sheets. Non, c'est passé de Excel à Google Sheets.
Google Sheets, exactement.
Passer dans le cloud.
Oui, non, en fait, Excel est encore beaucoup utilisé, mais on va dire, quand on parle de l'intelligence artificielle, du machine learning, c'est ça où, on va dire, le gros atout de ces technologies, c'est de venir faire tous ces calculs. Je veux dire, des modèles aujourd'hui, ce n'est pas un modèle pour un output, une décision. C'est 100 modèles qui vont tourner en même temps et qui vont donner justement des résultats adaptés à la situation. Donc, on va capter de la donnée exogène, pas uniquement de la donnée interne. On va capter ça, on va les introduire dans les modèles et les modèles vont tourner pour nous dire, voilà, en fonction de la demande, en fonction de l'historique de la demande, on va pouvoir, au vu des événements qui viennent perturber cette demande, faire une recommandation. Les scénarios par eux-mêmes, c'est pour permettre finalement à l'humain de prendre la décision finale. Il va avoir scénario 1, je prends telle décision parce que je veux optimiser la satisfaction de mon consommateur. Scénario 2, je veux optimiser la marge. Ben, pour chaque scénario, il y aura des résultats différents. Et après, c'est l'humain qui va prendre justement cette décision finale.
Les recommandations, elles sont de quel ordre ? Tu peux me donner des exemples, parce que ça va, c'est pas juste en termes de supply, de dire combien on va acheter telle matière ou tel produit. Ça peut aller bien plus loin jusqu'à en magasin, c'est quoi que tu vas pousser, c'est ça ? Enfin, j'aimerais bien savoir le spectre.
Tout à fait, en fait. Si on reprend juste le Black Friday, parce que là, on en sort là, récemment. Le Black Friday, c'est assez provocatif. Pourquoi ? Parce qu'on met en des promotions en place et puis on voit en fait des gens se ruer sur ces produits-là, les acheter. Et parfois, au bout d'une heure, deux heures, bah, les produits sont en rupture de stock. Donc, c'est exagéré, mais c'est très révélateur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Bien souvent, on voit bah, les gens, ils se disent, bah, on va prendre un autre produit qui ressemble et on va le mettre à la place. Et ça, sans contrôle de quel est l'impact sur la demande qu'il va y avoir sur les semaines suivantes, sur mes produits, sur ma famille de produits. Est-ce que je suis toujours au niveau de ma marge profitable ? Est-ce que j'ai les produits disponibles pour réalimenter mes magasins après, puisque mes stocks, finalement, je suis en train de les épuiser ? Donc, est-ce que je ne vais pas avoir une insatisfaction client par la suite pour avoir poussé le mauvais produit ? Donc, c'est un peu ce genre de scénario qu'on va pousser, à savoir est-ce que en bougeant cet engrenage et en faisant bouger tous les autres engrenages, on n'est pas en train de prendre une mauvaise décision ? Et tout ça, c'est recalculé automatiquement. Et donc, en fait, bouger un engrenage, ça correspond à un scénario. Bouger un autre engrenage, par exemple le prix ou la promotion, c'est un autre scénario et ça donne un autre résultat.
Quand on parle de machine learning, d'intelligence artificielle, ça repose sur la donnée, sur beaucoup, beaucoup de données. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ces simulations de scénarios, c'est quelque chose aujourd'hui qui est réservé qu'aux très, très gros retailers qui ont un volume monstrueux de données ?
Non. En fait, c'est de plus en plus compliqué d'aligner, en fait, on va dire, juste les métiers. Donc, quelle que soit la grandeur, en fait, de l'entreprise, il y a différents métiers qui doivent justement collaborer les uns avec les autres. Donc, juste cette partie collaborative demande justement d'aligner, en fait, ces décisions-là. Donc, on va dire, le category manager va vouloir pousser son produit, la supply chain va dire, attention, moi, j'ai des ruptures de stock, si vous poussez trop de produits, moi, j'en ai plus assez. Le marketing va dire, on va mettre une promotion. Le chef de produit va dire, attendez, vous êtes en train de manger ma marge. Donc, tout ça, ce sont des choses, même si la société ou la compagnie, elle est petite, ce sont des choses qui apparaissent au niveau des métiers. Donc, cette partie collaborative, uniquement, elle est déjà primordiale.
Mais est-ce qu'il y a des produits où, justement, on ne s'attend pas du tout à ce qui est... Enfin, on se dit, en tant que retailer, il n'y aura jamais de pénurie sur ce produit-là.
En fait, c'est ce que je pensais aussi. Est-ce qu'on parle de rupture ou de pénurie ? La pénurie, oui. c'est un peu éphémère. Là, il y a eu en fait la production, il y a eu des grèves, il y a eu des problèmes logistiques. Donc, les produits n'ont pas réussi à arriver en temps et en heure. Donc, la production a pris du retard. Donc, on est plus sur des ruptures. La pénurie,
ça repartira.
Voilà, ça repartira. Oui, exactement. Et la pénurie, c'est peut-être un peu plus grave en fait derrière. Donc, l'un dans l'autre, moi, je me disais, elle était assez marrante cette discussion entre rupture et pénurie. Est-ce qu'on est dans une rupture ou dans une pénurie ? Parce qu'on parle des prémices d'une révolution industrielle. Quand on parle en fait des ruptures de stock. Bien souvent, en fait, pour les retailers, ils ne disent pas en fait que les ruptures de stock, ça a un impact négatif par rapport à leur business. Pourquoi ? Parce que une rupture de stock, bien souvent, c'est un produit qui n'a pas été livré par l'industriel, par le fournisseur. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a des pénalités. Si l'industriel ne livre pas en temps et en heure pendant un slot, il a une pénalité de livraison. Donc, les distributeurs, ils ont développé aussi cette source de revenus, qui est de dire, je gagne de temps en temps plus d'argent sur le retard de mon fournisseur que sur le fait de ne pas avoir mon produit dans les rayons ou à disponibilité dans mes stocks.
Est-ce que tu vois, quand on regarde prendre des décisions grâce à la data, bon bah déjà c'est superbe, et en plus pouvoir simuler des scénarios, c'est Star Wars. Les solutions techniques, ok, elles existent et elles pourront toujours être améliorées, les modèles, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais, si on regarde le CAC 40, la majorité de ces boîtes-là qui ont de l'argent, et on pourrait imaginer qu'elles sont matures dans un marché compétitif, etc., elles prennent des données basées sur la... elles prennent des décisions sur la data et elles utilisent des modèles de simulation, ou non, on est vraiment aux prémices et qu'il n'y a que 1% des boîtes qui font ça aujourd'hui?
Alors, ils bougent tous vers cette analyse de la donnée. On va dire le retail, le luxe. Dans le luxe, par exemple, très souvent, pendant très longtemps, ils n'ont pas utilisé la donnée. Ils n'en avaient pas besoin. Pourquoi ? Parce que c'était la relation client, donc pas la peine d'aller chercher de la donnée pour le comprendre. Maintenant, ils s'aperçoivent que, en pressant le jus du citron, il va falloir quand même faire des économies de coûts parce que, je veux dire, c'est de partout le produit qui n'est pas disponible parce qu'il n'a pas été livré en temps et en heure, la satisfaction client. Ça commence à jouer vraiment son rôle. Donc, cette donnée, elle devient primordiale, même pour le retail du luxe, qui lui va devoir commencer à rentrer dedans aussi et à prendre ça sérieusement. Et actuellement, ils investissent dedans. Donc, on va dire vraiment maintenant, c'est un incontournable.
David, on arrive à la conclusion. Écoute, il y a je vais faire la promotion d'une page que vous avez faite qui liste quelques innovations que vous proposez dans le cadre pour les retailers en utilisant la data. Et ça reprend un peu les sujets qu'on avait donnés. En fait, les champs d'application sont tellement vastes, c'est hyper difficile d'être exhaustif. Donc, vous avez listé quelques exemples d'innovations sur lesquelles vous pouvez accompagner les retailers. On mettra le lien. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter, pour aller plus loin?
Écoutez, moi, ce que je vous propose, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez en fait discuter, contactez-moi sur LinkedIn, c'est le plus simple. Et moi, je reprendrai contact avec vous et on pourra creuser sur ces sujets qui sont terriblement intéressants.
Complètement. Merci beaucoup encore une fois, David.
Merci, David.
Et je te dis à très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Reco micro, au micro, on fait notre reco. Écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. Adrien, quelle est ta reco cette semaine?
Ma reco, c'est une extension de Google, Google Chrome. Ça doit exister sur Firefox également. C'est une extension qui s'appelle Amazon Brand Detector. Et en fait, ça te permet, quand tu l'installes, lorsque tu navigues sur Amazon, ça va te mettre en surbrillance tous les produits qui sont vendus par Amazon ou les marques d'Amazon. Alors, certaines comme Amazon Basic, tout le monde le sait, mais il y a des centaines de marques, il y a plus de 150 marques qui sont gérées par Amazon et qui ne sont pas nécessairement connues par le grand public. En regardant un petit peu, en creusant un petit peu cette extension, je me suis dit ok, elle est intéressante, je l'ai utilisée, je la trouve intéressante. Je creuse un petit peu qui l'a fait et je trouve un superbe article d'un site internet qui explique qu'en fait ils sont allés, je crois qu'ils ont développé l'application suite à cet article qui date de fin octobre, et c'est un article qui t'explique vraiment en détail quel est l'algorithme derrière la mise en avant des produits Amazon versus les autres produits. Et en fait, ce que tu te rends compte, et donc je vous mettrai le lien de l'article, c'est que tu as des articles Amazon qui sont mis en avant malgré le fait qu'ils ont moins de notes et des moins bonnes notes que certains autres articles concurrents. Donc on en a parlé il y a plusieurs semaines. Eux, pour le coup, ils ont fait un long article avec ils ont analysé plus de 3500 produits, ils ont développé des algorithmes, ils ont fait des thèses dans tous les sens et l'article se lit très facilement. Ce qui m'a fait remonter au site même, et le site, c'est themarque.org. Donc tu me suis toujours, c'est le site themarque.org qui a fait un article, et suite à cet article ils ont fait une extension Google Chrome du navigateur. Et le site, donc j'ai adoré la tagline, c'est Big Tech is watching you, we're watching Big Tech. Et donc c'est également ma reco. Du coup je vous fais deux recos ou trois recos en une: l'extension du navigateur, l'article vraiment canon qui est super intéressant, et le site internet qui aussi est très intéressant parce qu'il se veut être un peu des fact checkers, reposer sur la data, etc. et décrypter un petit peu l'actualité ou en tout cas ce qui se passe avec les big tech. Donc voilà ma
recours. Adrien, t'as gardé l'extension ou tu l'as...
Ouais, je l'ai gardé, je vais continuer à l'utiliser.
Et ça t'aide vraiment dans tes actes d'achat?
Je pense que c'est plus quand t'es un peu militant et tu vas te dire ok, où est-ce que c'est Amazon ou pas. Mais j'ai trouvé ça super intéressant du fait que moi j'étais resté sur l'idée de quand tu es Amazon, c'est Amazon Basic, la marque principale, et non, il y a des centaines de marques. Autre chose, quand tu sélectionnes sur filtrer les produits Amazon, il faut le voir comme de la pub déguisée et pas comme un vrai filtre. Et c'est là où justement c'est la navigation sur Amazon, elle prête vraiment à confusion, parce que parfois tu peux te dire que c'est un filtre que tu utilises où tu réassors les produits d'une certaine manière. Non, t'entres dans une catégorie pub et c'est assumé, mais c'est pas explicité aux visiteurs.
Exactement.
Donc c'est un peu foireux, quoi. Et toi Laetitia, ta reco, c'est quoi?
Maroco cette semaine, je suis pas certaine de l'avoir déjà confié au micro, mais j'adore un podcast qui s'appelle Affaires Sensibles de France Inter avec Fabrice Duruel. Donc c'est pas du tout tech, sauf que il y a 15 jours, je redécouvre un vieil épisode qui est dédié au Darknet. Et là, j'ai passé un agréable moment. Donc c'est plutôt long, hein, c'est un podcast d'environ une heure, et c'est un épisode donc dédié au Darknet, entre les fantasmes et les réalités de tout ce qu'on entend dans Darknet. Ça définit l'ensemble des termes Darknet, Dark Web, toutes ces choses-là, à quoi ça fait référence, à quoi ça ne fait pas référence, et on passe en revue un certain nombre de clichés sur le Darknet. Donc moi j'ai adoré, c'est hyper accessible, ça peut faire doucement rire ceux qui sont les aficionados, ceux qui sont un petit peu plus habitués à ça. Donc je recommande Affaires Sensibles, l'épisode sur le grand méchant Darknet. Et après, alors je ne vais pas le recommander celui-ci, mais juste après j'ai écouté un autre épisode sur le Darknet par les Échos, qui ont un podcast qui s'appelle La Story, qui parlait du Darknet, et c'était un autre ton, croyez-moi. Là, on était vraiment dans ça tapait sur le Darknet. Donc voilà, Affaires Sensibles, Fabrice Duruel sur le Darknet.
Le panier surprise. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend, où on s'amuse. Laetitia, tu es l'anamètre du jeu cette semaine, et tu as deux jeux pour nous, donc on vous invite à jouer. Vous jouez contre moi, le Kikadi et le French Connection. Laetitia, le Kikadi alors?
Ah, Kikadi, non, je vais commencer par French Connection. Okay. Donc je rappelle, French Connection, je cite des noms, des mots qui ont un lien entre eux, et c'est à vous et c'est à toi, Adrien, de deviner ce qui unit l'ensemble de ces mots. T'es prêt?
Ouais, je suis prêt.
Alors, Squid Game.
Non, oui. J'étais distrait par autre chose, vas-y, ok.
Wimbledon.
Non, aucune idée.
Carla Moreau.
Je sais même pas c'est qui.
Moshi.
Je sais même pas c'est qui.
Non, ce que c'est, Néo Moshi, c'est...
Ah, c'est le truc à manger, là.
Des digas à François Victor, ouais, qui adore ça. ERP. Je sais pas ce que c'est non plus.
Ouais, non, j'ai aucune idée.
Wokisme.
Je sais pas du tout.
Doctolib.
Ouais, je sais pas.
Tonton David. Eh bien, il s'agit de l'ensemble des mots les plus recherchés sur Google, sur le moteur de recherche de Google en 2021.
Sérieux?
Alors, il y en a beaucoup plus en réalité. En ce qui concerne le e-commerce, il n'y en a pas trop, mais sans grande surprise, qui domine les recherches sur Google, eh bien, c'est tout ce qui est lié à la pandémie, au Covid. Donc, c'est pour ça qu'il y avait du Doctolib, ERP. On avait aussi, bon, Carla Moreau, tu ne sais pas ce que c'est, mais c'est une actrice de télé-réalité.
D'accord.
Wimbledon, donc tout ce qui est lié au sport aussi. Et puis, ben, on a Squid Game, il y avait aussi Lupin. Donc, toutes les séries sont hyper recherchées. Alors, dans le lien que je vous ai mis, vous avez toutes les questions, parce qu'il y a beaucoup de questions autour du qui, quoi, comment, pourquoi. C'est hyper intéressant. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose sur le e-commerce.
Merci Laetitia. Et donc, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé, parce que là, pour le coup, je n'étais pas du tout inspiré. On passe au French Connection. On passe au Kikadi, pardon.
Kikadi. Alors, une citation.
Okay.
Je vous cite une citation. Ensuite, à vous de deviner, si vous l'avez tout de suite, qui est-ce qui a formulé cette citation. Sinon, je vous aide et je vous propose 4 propositions. Quand je réfléchis à notre travail, je pense à l'impact réel que nous avons sur le monde. Ces gens qui peuvent maintenant rester en contact avec leurs proches, créer des opportunités, de se soutenir et de trouver une communauté. C'est la raison pour laquelle des milliards de personnes aiment nos produits. Alors, est-ce que c'est Jack Dorsey, le fondateur de Twitter ? Est-ce que c'est Larry Page, le fondateur de Google ? Est-ce que c'est Mark Zuckerberg, le fondateur du groupe Meta ? Ou enfin, est-ce que c'est Bernard Marty, qui est l'un des pères fondateurs du Minitel ?
Ouais, non, moi, ça sonnerait vraiment beaucoup Facebook. Maintenant, comme j'ai pas du tout vu ça dans l'actualité, ça me paraît bizarre. Twitter, c'était la semaine dernière où il s'est barré, je crois, donc je vois pas pourquoi on en parlerait maintenant. Non, je sais pas, j'irai Facebook.
Ouais, t'as raison. C'est Mark Zuckerberg qui, dans une belle envolée lyrique, nous explique qu'il fait un travail pour le monde.
Bah écoute, bravo, on va le croire, Adrien. Alors, s'il le dit, on va le croire. Alors.
Bravo Adrien, t'as presque gagné.
Merci
un
beaucoup.
Un sur deux.
Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé également.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Jessica qui nous écoute. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafédelecommerce.fr. Pour tous ceux qui nous aiment, et les rageux, c'est pas la peine, mais ceux qui nous aiment, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast.
Merci beaucoup pour votre écoute. Vous n'oubliez pas qu'on a un groupe WhatsApp, on est presque 150, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn parce qu'on poste très régulièrement. Tous les jours, en fait, on poste quelque chose. On a le calendrier de l'avant et puis pas mal de publications en complément du podcast. Laetitia, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Monde.